Vous écoutez Lilin Info, le magazine consacré à l'Université Lilin, chaque mercredi entre 17h30 et 18h sur Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. On se retrouve aujourd'hui autour d'un événement qui aura lieu le 13 novembre à Lilin, bien sûr. Il s'agit de l'inauguration du hall pilote de Catalyse sur l'île 1. Voilà, nous allons parler de cet événement avec nos invités. Donc on va les présenter dans l'ordre que j'ai noté sur ce papier qui donc nous indique que sont présents aujourd'hui Alain Rive, directeur de l'EFR de Chimie. Bonjour Monsieur Rive.
Bonjour.
Edmond Payen, initiateur de ce projet, ancien directeur du LUCCS. Bonjour Monsieur Payen.
Bonjour.
Et Pascal Baranek, qui est ingénieur d'études et responsable de l'exploitation de ce bâtiment dont on va parler tout à l'heure. Bonjour Madame Baranek.
Bonjour.
Alors, puisqu'Edmond Payen est l'initiateur du projet, on peut peut-être dire, en tant qu'ancien directeur de l'UCCS, quel était l'objectif de ce projet, pourquoi il a été conçu, quelle était l'urgence de le réaliser, et peut-être après Alain Rive nous dira où il en est maintenant. Ça peut être un bon début.
Parfait. Bien. Merci beaucoup. Cette demande de création de ce bâtiment hall pilote était destinée à accueillir, comme son nom l'indique, les bâtis pilotes, les réacteurs pilotes, plutôt de type industriel, pour différentes raisons. D'abord, c'est dans l'histoire du laboratoire de catalyse lui-même, puisque UCCS, c'est unité de catalyse et de chimie du solide, et en particulier la catalyse hétérogène. Donc c'est un laboratoire qui avait été créé par Jean-Eugène Germain en 1952, donc vous voyez, c'est pas très récent. Et c'était vraiment on avait à cette époque le développement de la catalyse hétérogène, donc qui s'est effectué donc entre autres sur le site de Lille. Et au départ, il s'agissait surtout de réactions, de développer la catalyse en elle-même au niveau académique avec des réactions assez simples. Et au fur et à mesure, les choses se sont bien développées et nous approchions au niveau de la validation industrielle, c'est-à-dire qu'on a eu une période, je dirais, jusqu'aux années 80, c'était la catalyse fondamentale. Ensuite, je dirais jusqu'aux années 2000, on a pris différentes orientations, dont celle de la fabrication de nouveaux catalyseurs. Il s'agissait de valider ces nouvelles synthèses. Donc, au niveau des réactions académique, sur réaction modèle, c'était parfait. Nous étions équipés en ce sens, où c'était assez facile de s'équiper. Par contre, nous avons voulu avoir une orientation industrielle, et le seul moyen de valider ces nouvelles formulations était de faire des tests dans des conditions assez voisines de celles rencontrées dans le milieu industriel, pour les valider au moins par les industriels, et sur des charges réelles. C'est-à-dire que si, par exemple, en hydrotraitement, on prenait des molécules, je dirais, organiques contenant du soufre auparavant pour voir si le catalyseur était efficace, Maintenant, on est obligé de travailler sur des charges réelles, c'est-à-dire par exemple des gasoils qui sortent des unités de raffinerie et les traiter pour que vous puissiez les acheter avec moins de 10 ppm, par exemple, à la pompe à essence locale.
Mmh. Merci Edmond Payen. Alain Rive, quand on parle de réaction ou de réacteur, on a tous dans l'idée, enfin je parle des auditeurs et de moi-même bien sûr, des avions à réaction, des choses comme ça. Là, on parle de réaction par rapport à quel phénomène ?
Oui, donc là, non, il s'agit de réactions chimiques se passant dans un réacteur donc, qui contient un catalyseur. Et donc, on va faire passer des charges réelles, comme le disait Edmond tout à l'heure, qui vont être transformées. Et notamment, on va essayer d'enlever les hétéroatomes pour en faire, en fait, pour transformer le pétrole et en avoir l'essence et le diesel que vous mettez ensuite dans vos voitures. Donc, c'est principalement à ça que servent ces réacteurs. C'est vraiment de la transformation de produits, de matières premières.
Les applications, vous en avez un peu parlé. Est-ce qu'on pourrait donner des choses précises pour l'usager, on va dire, pour le consommateur, voire ?
Alors, le consommateur, c'est principalement, comme le disait Edmond, donc si on enlève les hétéroatomes, et notamment le soufre et l'azote, on va réduire, en fait, on va améliorer la qualité de l'environnement. D'accord. Donc c'est bien pour ça que les pétroliers, en général, essaient d'enlever ces hétéroatomes. Donc il faut savoir que les normes au niveau européen sont de plus en plus drastiques, ce qui est tout à fait normal. Hein. Et donc on doit, par exemple, pour les essences et les diesels, être en dessous de 10 ppm à l'horizon 2015, et on doit tendre vers les 0 ppm par la suite, donc aux alentours de 2020-2025.
Donc l'idée, c'est d'éviter de remettre en circulation dans l'air des particules dangereuses. C'est pas forcément pour l'instant de se débarrasser de ce qui existe.
On le transforme et on l'élimine par la suite sous forme de déchets et qui peuvent être retraités.
Mmh. Donc, Pascal Baranek, vous êtes ingénieur d'études donc, et vous gérez cette exploitation du bâtiment. Alors, pour l'instant, le bâtiment, il contient quoi et qu'est-ce qui va être nouveau dans le cadre de ce hall pilote maintenant ?
Alors, le hall pilote, en fait, nous venons tout juste de le réceptionner. Mmh. Nous avons eu donc les clés fin octobre, donc vous voyez, c'est assez récent. Et nous prenons possession des lieux pour l'instant. Donc, nous emménageons les différentes cellules, parce que le hall pilote est composé de 12 laboratoires, dont 10 qui seront vraiment dédiés à ce que Edmond Payen parlait de pilote, donc c'est-à-dire des tests catalytiques sous pression. Et nous disposerons de 2 salles d'analyse qui nous permettent d'étudier les effluents de ces tests.
Donc, est-ce qu'en France, il y a beaucoup de hall pilote de ce type-là ?
Non, c'est le seul, oui, pour l'instant.
Donc, ils travaillent sur ces projets-là, en fait ? Il n'y a que Lille qui s'en occupe ?
Une telle infrastructure, donc c'est nouveau pour l'instant, mais après, on a des partenariats, nous, industriels, donc certains de ces sujets sont étudiés alors, mais pas regroupés dans un bâtiment tel que le nôtre.
Le fait que ce soit regroupé, je pose une question naïve, ça présente des dangers ou pas ?
En fait, on a voulu regrouper tout ce qui était sous pression dans un même bâtiment pour pouvoir mettre tous les dispositifs de sécurité au sein de ce bâtiment. C'était vraiment l'esprit de ce projet.
Le Edmond Payen, qui a connu ça il y a très longtemps, est encore vivant, donc c'est quand même bon signe.
Merci beaucoup de me faire remarquer mon âge avancé.
On effectivement, a presque au même âge là.
j'ai vécu toutes les phases et effectivement, on était arrivé. Bon, c'est un peu une évolution du laboratoire qui a fait qu'on est passé donc du petit réacteur qui n'avait pas beaucoup de danger à ces gros réacteurs sous pression et avec des gaz corrosifs. Et il était nécessaire de modifier l'ensemble. On pouvait plus travailler dans les anciens locaux. C'était plus possible. Alors, vous avez, jusque maintenant, on a fait allusion on a fait allusion justement à une seule des réactions, c'est-à-dire tout ce qui concernait l'énergie, mais et en particulier le traitement des coupes pétrolières. Mais il y a d'autres thématiques dans le laboratoire, entre autres production des carburants directs sans hétéroatomes, comme le disait Alain Rive, sans polluants répertoriés officiellement. Et là, c'est par des synthèses de Fischer-Tropsch à partir de gaz de synthèse qui est tout à fait autre chose. Là aussi, on travaille sous pression et à haute température. Et puis, il y a aussi tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui est un peu le dénox. Hein, ça, vous connaissez, les pots catalytiques. Donc ça aussi, ça fait partie des thématiques de recherche du laboratoire. Et enfin, le dernier, puisque c'est beaucoup dans le vent, c'est tout ce qui est durable. Et on a une équipe qui travaille sur tout ce qui est ce qu'on appelle maintenant la bioraffinerie, c'est-à-dire produire des molécules à partir de la biomasse et maintenant de la biomasse seconde génération. Donc vous voyez, c'est un ensemble énergie, environnement, développement durable avec des applications réelles vers l'industrie, sachant qu'il s'agit de produire des gros volumes. Ce n'est pas comme de certaines thématiques pharmaceutiques où les volumes ne sont pas élevés. Vous vous rendez bien compte que lorsqu'on produit du gasoil, on ne peut pas produire dans des petites entités, ce sont des grosses unités qui produisent en continu. Donc nos réacteurs travaillent en continu. Il n'y a pas d'arrêt le week-end ni tout. Donc on avait besoin de sécurité et d'automatisation précise.
Vous parliez de biomasse. Il y a des unités de recherche ici à Lille sur la biomasse. Hein.
Oui.
Ils font partie de votre groupe ? C'est dans le même regroupement ?
Bien sûr. Par exemple, je parlais là des micro-pilotes qu'on va installer dans le hall pilote de catalyse. Quand on travaillait en catalyse, je dirais plus académique, on travaillait sur 200 mg de catalyseur. Il n'y avait pas de problème de synthèse. Lorsqu'on passe à un pilote, on est au minimum à 10-20 g de catalyseur. Et ce n'est plus de la poudre, ce sont des choses qui sont mises en forme en fonction du réacteur que l'on va utiliser. Donc il y a déjà tout un problème de transfert de savoir-faire chimique pour le transférer au réacteur. Et produire des plus grandes quantités de catalyseurs, et parfois passer de 200 mg à 2 kg, un universitaire a du mal à le faire. Hein.
On est dans de l'application industrielle après ?
Oui, c'est direct. On a des contrats sur la fabrication de catalyseurs pour avoir de meilleures performances, soit en désulfuration des gazoles, soit en désulfuration ou tout ce qui est épuration de les coupes très lourdes dont on parle beaucoup maintenant. Là, c'est un travail que ces pilotes doivent travailler à très haute pression dans ces conditions-là. Et dans le cas de la biomasse, on a aussi des choses similaires, parce qu'on peut prendre de la biomasse seconde génération, des déchets que l'on transforme en une huile de pyrolyse. Et cette huile de pyrolyse, il faut la purifier, parce que même si elle vient de la biomasse, elle contient beaucoup, beaucoup de molécules qui ne sont pas toujours agréables pour la santé.
Mmh. Alors tout à l'heure, on parlait des contraintes administratives et légales, on va dire, des lois, des directives imposées peut-être par l'Europe ou d'autres, hein, en termes de sécurité et aussi d'environnement. Ça, c'est sûr que vous devez répondre aussi à ces cahiers des charges. Est-ce qu'il y a aussi des facteurs de progrès, d'économie d'énergie que vos recherches peuvent aussi mettre en place, hein, par exemple, ou des choses qui n'ont pas été pensées auparavant et qui pourront peut-être faire l'objet de nouvelles lois, de nouveaux règlements si tout le monde adopte vos principes, hein.
C'est une question, là, telle que vous la formulez, à laquelle il est assez difficile de répondre, parce que, de toute façon, oui, toutes ces recherches que l'on a menées ont été édictées directement par les contraintes de la communauté européenne, hein, et les pétroliers devaient s'y plier. Et elles se durcissent toujours. Hein, là, Alain Rive parlait de taux de soufre. Ben maintenant, je dirais que ce n'est plus un gros problème, mais nous avons toujours les aromatiques qui sont dedans. Alors là, se posent d'autres problèmes, parce que supprimer les aromatiques, c'est aussi peut-être d'abord consommer beaucoup d'hydrogène. Et ça, l'hydrogène, il en manque. Tout au moins dans les grosses entreprises, dans les grosses industries de transformation là, de ce type. Et il y a aussi la qualité du carburant. Il faut respecter les contraintes, je dirais, législatives. Et puis, il faut respecter aussi, il faut tout au moins faire en sorte que l'ensemble soit compatible, du point de vue technique.
Oui, en même temps, au niveau économie, quand on baisse la température de réaction pour transformer un produit, forcément, on fait faire des économies de chauffage, etc. Et c'est le principe de l'action catalytique, c'est-à-dire qu'on va essayer de diminuer la température de transformation de la matière première. Donc à partir de ce moment-là, il y a économie d'énergie.
On parlait d'Europe. Est-ce que les autres continents ou les autres pays qui ne sont pas forcément dans la communauté européenne suivent un peu les mêmes orientations, on va dire?
Au niveau de la législation ou...
Oui, des comportements d'une manière générale, de l'éthique, entre guillemets.
De toute façon, c'est dicté par des lois européennes. Donc forcément, tous les pays de l'Europe et même tous les pays de l'OCDE subissent maintenant les mêmes contraintes.
Mais au-delà de ça, des grands continents qui ont une consommation importante maintenant en énergie.
On travaille avec beaucoup de laboratoires extérieurs à la France, et pas seulement européens. Vous savez, tous les continents ont les mêmes problèmes et nous avons des colloques régulièrement sur ces sujets. C'est Amérique du Sud, Amérique du Nord, la Chine. Tous les pays ont les mêmes problèmes avec des deadlines au niveau de l'obligation de respecter certains critères qui sont différents, mais tout le monde a les mêmes problèmes. Et nous avons des réunions internationales qui sont très intéressantes parce qu'on a une participation importante des industriels. Et c'est ce qui est formidable.
L'idée de vivre sur la même planète, c'est quelque chose maintenant qui est acquis, alors?
Oh oui.
Avoir chacun sa responsabilité, engager et essayer d'y
répondre. Je pense qu'au niveau de la communauté scientifique qui travaille sur l'énergie et l'environnement, oui, c'est acquis.
Oui. Après, oui. Sans problème.
Donc, Madame Baranek, vous êtes responsable de cette exploitation du bâtiment. Quels sont les utilisateurs? En fait, on a parlé tout à l'heure des laboratoires de recherche, etc. Est-ce que ces bâtiments sont également ouverts à l'extérieur, par exemple?
Alors, donc, les principaux utilisateurs sont des doctorants qui travaillent sur des sujets industriels. Donc, c'est ouvert à l'extérieur par le biais des contrats de recherche que nous avons avec les industriels.
Mmh. On peut dire que c'est une plateforme internationale, celle de Lila?
Oui, tout à fait.
Une location internationale, oui.
Je peux même me permettre de compléter la réponse. C'est une plateforme ouverte, mais au travers de contrats de recherche. Hein, parce que il est difficilement envisageable dans ces thématiques d'envisager une plateforme de traitement de services, en quelque sorte. C'est beaucoup plus difficile. Ce sont des études complètes. Donc c'est sur des projets au minimum d'un an, quoi. Je n'ai jamais vu au cours de ma carrière un industriel qui est venu me demander... Si quelquefois c'est quelques tests de démarrage, mais c'est avec l'optique de mettre sur pied un projet et non pas de prestations de services en continu, quoi.
Alors Monsieur Payen, là il va y avoir l'inauguration de ce hall pilote. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière inauguration avant celle-là? Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement marquant de ce lieu?
Il y a eu la pose de la première pierre. Malheureusement, je n'ai pas révisé avant de venir et je ne me souviens plus de la date.
C'était à peu près il y a un an, au mois d'avril.
Donc là, en novembre, 13 novembre, vous attendez qui?
Alors, le 13 novembre, à partir de 10h45, il y aura l'inauguration, donc en présence du président de l'université, donc Philippe Rollet, de Madame la déléguée régionale du CNRS, Madame Payous, de Madame Cathy Buquet, qui est déléguée régionale à la recherche et à la technologie, de Sandrine Rousseau, qui est vice-présidente en charge de la recherche au niveau régional, et bien sûr de Edmond Payen, qui est l'initiateur, et je pense que c'est à peu près tout comme personnalité.
Donc ce lieu et ces évolutions sont financés par qui, d'une manière générale?
Alors, au niveau du hall pilote proprement dit, ça a été cofinancé par l'État, d'accord, avec l'État et le MRES et le CNRS, d'accord, qui ont versé aux alentours de 1,7 million d'euros dans le cadre du CPER. Donc, bien sûr, le territoire a aussi participé, donc la région a aussi participé au financement de Sol Pilote à travers ce contrat. Le FEDER, à hauteur de 1,6 million d'euros. D'accord. Et bien sûr, l'Université Lille 1 qui a recruté un ingénieur d'études pour faire fonctionner cette plateforme. Donc, c'est à tous les niveaux, en fait, que... Donc, grosso modo, l'opération représente environ 3,2 millions d'euros. Elle se situe dans le cadre de la réhabilitation donc, du pôle chimie, il faut le dire. Et donc, qui consiste aussi en la mise en sécurité de tous les bâtiments de chimie sur l'université.
Alors, c'est vrai que ces bâtiments sont regroupés dans le nord-est de la cité, hein, c'est ça, d'une manière générale. Vous êtes au cœur de cet ensemble ?
Alors, pour la plateforme elle-même, la plateforme est à côté du bâtiment, entre le bâtiment SH1, le bâtiment C4 et le bâtiment C3, donc tout près du Barrois. Donc c'est pour ça qu'il est très 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 important qu'il soit fortement sécurisé, puisqu'il y a quand même beaucoup de passages autour.
Et le problème des visiteurs du grand stade, non ? Problème ou pas ?
Pour le moment, non.
Nous n'en avons pas de raison.
Vu, non.
On ne va pas s'aventurer dans vos espaces.
Non, mais le bâtiment est assez sécurisé normalement pour qu'on ne puisse pas s'aventurer à l'intérieur de celui-ci, hein. Sauf autorisation, bien sûr.
Donc cette inauguration, c'est l'occasion de présenter, aussi de voir tous les partenaires qui pourraient être intéressés. Est-ce que vous envisagez de nouveaux partenariats en cette occasion ? Est-ce que vous avez fait appel à des gens qui n'ont pas encore l'habitude d'utiliser peut-être vos services et qui pourraient trouver là des solutions ?
Bien sûr, c'est toujours un challenge que de trouver de nouveaux partenaires. Nous avons nos partenaires, je dirais, historiques. Ce sont les grandes sociétés, alors chimiques de France et pétrolières, puisqu'on a tendance à les séparer, Total, Roja, qui est maintenant Solvay, Roja, Adisseo, qui est sur Lyon, Arkema, ne pas l'oublier. Bon, on voudrait effectivement élargir encore. Nous en avons eu d'autres. Nous avons eu Air Liquide, par exemple, sur le Fischer-Tropsch. Et ce que l'on veut ensuite ici, en quelque sorte, c'est une inauguration, je dirais, par les tutelles. Et nous envisageons d'organiser, lorsque tous les pilotes auront pu être redémarrés, d'organiser en juin prochain une journée scientifique, donc vraiment un colloque autour de la catalyse et des réacteurs, où l'on invitera tous les, je dirais, industriels potentiels.
L'idée de multiplier les partenaires industriels, ça peut contribuer aussi à l'indépendance de votre lieu et à vous sentir porteur d'un projet plus important ?
Ben écoutez, porteur d'un projet plus important, je l'ai dit au début, c'était une action dans la continuité au niveau des laboratoires, des études. C'est la suite des travaux, on ne pouvait pas faire autrement, il y avait des contraintes. Mais par exemple, il y a déjà des actions qui sont déjà bien avancé. Un des professeurs de notre laboratoire a obtenu un Equipex Real 4, et dans cet Equipex qui est en commun avec l'université, l'école centrale, l'école de chimie, Polytech et l'UFR de chimie, c'est de mettre sur pied toute une plateforme, là qui sera une plateforme de service, mais de service pour des synthèses de catalyseurs en système automatisé, entre autres, parmi les différentes possibilités de cette plateforme. C'est bien un ensemble au niveau de la catalyse hétérogène.
Est-ce que le fait que des universités soient regroupées au sein du PRESS maintenant, ça apporte aussi quelque chose pour vous ?
C'est beaucoup plus difficile à en discuter parce que, bon, j'ai un peu déjà passé un peu sous silence un peu trop le fait qu'il y a aussi de la catalyse homogène qui participe et aussi de la chimie du solide, d'où le nom de notre laboratoire, qui participe à cet ensemble. Hein, on fait des synthèses solides pour faire des catalyseurs, donc vous voyez, c'est tout un ensemble. Alors, au niveau du PRESS, il y a des laboratoires extérieurs qui font de la catalyse. D'ailleurs, l'équipe de Éric Monflier à Lens fait partie de notre équipe. Hein, donc vous voyez, on a, en quelque sorte, on a créé le presse, nous, avant le presse. Hein, je suis désolé,
vous
mais...
Vous avez pressé le mouvement.
Et exactement. Les objectifs. Vous l'aviez préparé.
Bon, là, c'est pas qu'on va se presser, mais il va bientôt être l'heure de rendre l'antenne. Si vous aviez un vœu à formuler pour l'an prochain, en 2013, par exemple, là, vous êtes déjà comblé, là, non ?
Certes, mais on doit toujours être insatisfait. Et donc, ce serait que tout tourne bien, déjà, et que l'on puisse attirer de nouvelles coopérations dans le cadre de contrats de recherche.
On peut peut-être donner un contact si on veut vous joindre. Et est-ce qu'on peut vous rejoindre lors de cette inauguration, par exemple ? Pourquoi pas ?
C'est là, je crois que moi, je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'il faut demander à la cellule communication de l'université.
Voilà. Donc, les renseignements, de toute façon, on les trouve sur le site de l'ILIN.
C'est paru dans l'hélico. Oui. Donc, je pense que ça va reparaître lundi, puisque l'inauguration est mardi. Hein, c'est bien le 13, oui. Donc, voilà. C'est paru sur les événements de l'université.
Voilà. Ben, on vous souhaite une bonne inauguration, peut-être.
Oui, je voudrais quand même, pour conclure, remercier l'ensemble des tutelles qui nous ont aidés assez rapidement à aboutir quand même pour la définition de ce bâtiment et sa construction. Donc, la présidence de l'université, M. Rollet, le CNRS, et en particulier par M. Régis Réau, directeur de l'Institut de chimie, et l'ensemble des tutelles, la région et puis le ministère. Quoi.
Voilà. Bien, merci à toutes et à tous. Merci et puis bonne continuation pour ce projet.
Merci.
Merci.